Barjorus 1192, la culpabilité perverse. Donc, par sa conquête du monde, Monsieur Trump va faire de nous son miroir, pourquoi pas, et nous rendre coupables de l'avoir laissé faire. Bon, là-dessus, j'étais un petit peu, quand j'ai écrit, j'étais un petit peu enflammé, et je me suis surpris, enfin, oui, plus ou moins même ce matin, et j'ai écrit que, bon, il est aussi à prendre en compte que Donald Trump est un homme politique. Donc, ce qu'il peut faire aujourd'hui, bien peut-être que dans un mois ou dans quelques semaines, il va s'apercevoir que, bon, en fait, c'est pas bon, faut faire marche arrière, éventuellement. Enfin, oui, c'est possible. Je fermais tout comme ça d'un coup. Bon, et pour continuer, je vais. Il y a. Vous savez, dans le journal, il y a des fois, il y a d'autres petits journaux avec. Et là, c'est pareil dans le journal dont je vous ai parlé hier, du 2 et du 3 février. 2025, nous sommes, donc cette diffusion sera au mois de mars hein, de cette chronique. J'ai trouvé ça, je trouve ça vraiment bizarre comme fascicule, comme truc quoi. Donc c'est chien de cancer, c'est le nom de la première page. Et alors j'ai annoté, c'est le monde à l'envers. Alors on va voir ça quand je vais rentrer dans le journal là, dans le petit. Le feuillet, c'est vraiment le monde à l'envers. Parce que pendant qu'il y a des humains qui souffrent du cancer, une empathie se crée, ou non, enfin, pour les proches, oui, forcément. Et certains proches, quand vraiment la souffrance est telle pour la personne, bah, on voudrait le laisser partir, quoi, pour arrêter ses souffrances, tu vois. Et là, non, c'est un chien qui souffre, le chien ou l'animal, en relation directe avec la nature, quoi. C'est pas le facteur, ni la lettre, mais il est en relation directe avec le côté invisible, quoi. L'animal. Et là, l'humain, eh ben, il veut le... Attends, qu'est-ce que j'écris ? Il veut le sauver, comme des hommes, par des moyens chimiques, donc enfin, ouais, la chimio et artificielle. Ça, je suis... Wow, ça m'a vraiment... Et donc là, je vous... Alors là, il y a un truc... Alors là, c'était dingue. C'est comme... Je cite. Hein. C'est comme votre enfant, vous n'allez pas l'abandonner quand il est malade et qu'il faut changer sa poche de pipi. Bah, je dis... Bon. Oui, bah, je comprends que pour certaines personnes, un chien, un chat, ça peut être pris comme un enfant, mais ce n'est pas un être humain. Bon, puis après, bon, les gens font ce qu'ils veulent, j'ai noté. Bon, ouais, c'est clair qu'on fait ce qu'on veut. Tu peux prendre ton chien comme ton enfant. C'est louable. Un animal, voire l'animal, fait partie ou non de la vie humaine. Il fait partie de la vie humaine ou non. Ça dépend si t'as un chien ou pas chez toi, si t'acceptes les animaux ou non. Ça, c'est chacun voit comme il veut. La culpabilité présente est toujours la même. Bah, c'est-à-dire que si après tu te sens... à mes yeux, c'est comme ton enfant. Il y avait quelqu'un qui m'avait fait la remarque une fois dans la rue, c'était pareil. Chacun voit... Ouais, faut avoir des enfants ou non, quoi. Bon, bref. Après, page d'après. Comment font les parents face à l'impensable ? Alors là, il est pareil encore... Alors là, bon, j'ai répondu à la question directe. C'est relatif comme question et comme réponse. Comment font les parents face à l'impensable ? Mais après, c'est toujours en relation avec le côté invisible, à mes yeux. Il y a toujours cause et conséquence. Bon, ça, c'est mon point de vue. Ok ? Je veux bien en parler s'il y a des gens qui souhaitent. Hein. Et là, il y a un petit truc qui est écrit. Personne ne peut vivre avec la conscience permanente du risque de sa propre mort ou de celle de ses enfants. Ouais, les mecs, ils vont chercher de ces trucs, quoi. Personne ne peut vivre avec la conscience permanente du risque de sa propre mort ou de celle de ses enfants. Mais sauf que personne ne peut vivre, mais personne ne le vit en conscience permanente. C'est pas possible. Tu peux pas être en conscience permanente à penser à la mort de toi ou de tes enfants. C'est pas possible. C'est humainement impossible. Donc tu vois, les mecs, ils racontent n'importe quoi. L'horreur, une autre citation. L'horreur, alors attends, c'est Clara Mathieu, psychologue clinicienne. Alors, ils vont chercher des boulots où ils peuvent, les gens. L'horreur permet de provoquer une situation d'anxiété, de stress et de peur dont on peut se sortir par soi-même. Voilà, tout est dit. Et voilà.
That's for all you days. We've got incest, bestiality. We got Friday and the weirdest taboo. We got girls who eat your pee and poo, and guys who'd love to fuck your shoe. There's and you got mamas with so much glee. Oh, you eyes, since the skin eyes will be a crack. Yeah! Thank you.
qu'on a pu écouter The Girl of Porn par Mr. Bungle qui avait été produit par John Zorn qui est des années 90. Donc ouais, c'est vraiment génial quoi. Tout l'album, ça part dans tous les sens, c'est très très riche comme musique. Ouais, c'est dans tous les dans des styles musicaux qui sont pas accordés ensemble d'habitude quoi. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment chouette. Donc, ouais, très très bon. Donc maintenant, on va alors pourquoi Girl of Porn? Parce que justement, on va parler du premier amendement comme je vous avais dit hier, premier amendement qui est il est interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant la liberté de religion et d'expression, la liberté de la presse ou le droit à s'assembler pacifiquement. Voilà ce qu'est le premier amendement américain. Et c'est là-dessus, par rapport à la pornographie, que Marcela Yacoub avait écrit « De la pornographie en Amérique » de 2010. Un truc assez bon. Donc on va survoler. On va en parler un petit peu. À commencer par l'introduction. Selon. Attends. Les mots doivent jouir de tels privilèges parce qu'ils sont moins malfaisants que les actes ordinaires. Bon, ça va de soi. C'est ce qu'on disait par rapport aux mots hier de Bob Dylan, des paroles. Ça fait moins de mal que le vrai truc, mais. Les mots n'agissent pas directement sur le monde, comme c'est le cas lorsque je tire au revolver sur mon voisin, mais indirectement, par l'intermédiaire de l'esprit du destinataire. Et là, j'avais annoté « bombe métaphysique » il y a longtemps, parce que j'en avais parlé il y a longtemps de ce livre. Un mot peut entraîner quelque chose, peut entraîner une action. Ensuite, le seul bénéficiaire de la liberté d'expression est le public dans son ensemble. Ok, la liberté d'expression de chaque individu est ainsi la condition de la mienne propre. La liberté d'expression de chaque individu est ainsi la condition de la mienne propre. Ça, c'est pas mal. Toujours aux États-Unis et même partout. Hein, c'est toujours mieux comme ça. Donc plus loin, la Cour fit ainsi entrer la liberté d'expression dans l'ère moderne et s'apprêta à mettre en pièces les vieilles règles du common law qui l'avaient jusqu'alors entravée. À partir de la fin des années 50, de la théorie du marché libre des idées. Cette liberté allait acquérir aux États-Unis une portée plus large qu'aucune autre démocratie occidentale n'en avait connue. L'aventure du premier hein. Pour comprendre pourquoi et comment la liberté d'expression a connu un développement si extraordinaire aux États-Unis, faisant apparaître par contraste celle qui existe en Europe comme une sorte de sœur chétive et pauvre. Alors l'Europe, on n'est pas à la traîne, on a une façon différente de voir les choses. La théorie du marché libre des idées n'a pas réussi à libérer l'ensemble des messages publics des entraves étatiques. Au contraire, la Cour construisit des catégories d'expression supposées soit socialement utiles, soit carrément malfaisantes, qui n'allaient pas jouir des mêmes privilèges que celles portant sur la politique ou la question d'intérêt général. Là, j'ai annoté, c'est le premier chapitre, la théorie du marché libre des idées, idée de perversion par les mots et leur utilisation, s'enchaînant à une ou des interprétations. Ça, c'est ce que j'ai annoté, la perversion par les mots et leur utilisation dans chaque moment, quoi. On sait que dans les sociétés démocratiques, les droits des individus se trouvent limités par les droits des autres et par ceux de la collectivité. On sait que dans les sociétés démocratiques, les droits des individus se trouvent limités par les droits des autres et par ceux de la collectivité. En matière de liberté d'expression, ce principe appliqué à la lettre ne peut que donner... Euh, en matière de liberté d'expression. Ce principe appliqué à la lettre ne peut que donner des résultats très restrictifs. En effet, si l'on prend en considération le contenu de l'expression, c'est-à-dire de la signification, pour déterminer si les droits des autres ou ceux de la société sont lésés, cette liberté peut très vite se réduire comme une peau de chagrin. Une société démocratique peut créer tant d'interdits d'expression si elle applique un tel principe afin de protéger l'ordre, la moralité, la dignité des gouvernants, la réputation des individus, le respect des opinions, des idées et des sentiments des autres, que très vite on risque de se trouver face à des décisions aberrantes comme celles que prend encore aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme et que j'ai rapidement évoquées plus haut. En effet, le critère des mauvaises tendances ne fait rien d'autre que punir les comportements humains qui ne vont pas nécessairement et irrémédiablement produire un dommage ou une atteinte à un droit, mais qui risquent de les produire, tels que la vente d'armes à feu ou la conduite en état d'ivresse. Mauvaise tendance. On peut développer le même raisonnement pour les mots. Il est aussi probable qu'improbable qu'une personne ayant entendu critiquer le gouvernement en temps de guerre décide de collaborer avec l'ennemi, ou qu'une autre en temps de paix décide de tuer quelqu'un après avoir entendu une apologie éloquente de l'assassinat. Les mots, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est que les mots peuvent diriger, orienter quelqu'un à produire quelque chose, peuvent influencer, disons. Les mots sont assez dangereux par rapport aux mauvaises tendances. Mais bon, tout ça ne sont que des mots. Encore une fois, comme je disais hier, Bob Dylan, bah, il n'a pas changé le monde malgré la beauté de ses paroles, quoi. Ses paroles de paix et tout, ça n'a rien changé, quoi. Enfin, le cheminement du monde était déjà fait, quoi. On n'a pas pris compte, quoi. La critère, alors maintenant on est au mystère, le chapitre de mystère de l'obscénité. Donc dans la deuxième partie, le critère de la réelle valeur rédemptrice. La plus importante transformation opérée par Miller au regard de la définition de Roth est celle de la rédemption du message obscène. Le message doit être dépourvu non pas de toute valeur artistique, littéraire ou politique, mais d'une réelle valeur artistique, littéraire ou politique. Donc là, si on comprend bien, le message doit être dépourvu non pas de toute valeur artistique, littéraire ou politique, mais d'une réelle valeur artistique, littéraire ou politique. La nuance paraît subtile. Elle est pourtant décisive. Donc en fait, tu passes de toute valeur à réelle valeur. Elle doit être dépourvue d'une réelle valeur. La nuance paraît subtile. Elle est pourtant décisive. L'obscénité peut être sauvée grâce à la valeur qu'elle représente, très par sa forme ou par son contenu. Mais cette valeur doit être réelle, c'est-à-dire qu'elle doit subir le test d'une qualification ad hoc non soumise, comme les messages ordinaires au test du marché libre des idées. C'est très ambigu, hein ? Extrêmement ambigu.
Always, when I'm dreaming, I can see you standing here, and only heaven knows that's in my every prayer. The raindrops on my window and the teardrops in my eyes. I keep looking at the rainbow, wondering why there's cloudy skies. 'Cause I love you, darling. I swear that it's true.
Oh, see you.
Sitting by the phone, thinking of a broken dream. Sorry that I hurt you, dear, with all my lies and schemes. 'Cause I love you, darling, I swear that it's true.
See you.
I know that I love you, I'm sure that I need you so. Why can't you hurt me, treat me cruel? I'll just go on dreaming till I have you back again. Stay apart from such true love is such an awful sin. 'Cause I love you, darling, I swear that it's true.
See you.
I know that I love you, I'm sure that I need you so. Why do you hurt me, treat me?
such an awful sin. Cause I love you, darling, I swear that it's true.
Écoutez, I swear it's true, des Seeds. Alors en fait, c'est le numéro 8 de l'album Bad Part of Town qui est, mais waouh, je l'avais trouvé en CD. Oh, mais il est fantastique cet album. T'as une partie un peu comme ça, tu vois, comme ce qu'on vient d'écouter, un peu balèque, tu vois, baloche quoi, balle des années 50. Et t'as une autre partie, mais garage des Seeds quoi, le truc, mais. Mortel, tu te prends une grosse claque. Hein. T'as un morceau qui dure 7 minutes, quoi. Mais Chucking on Jiving ou un truc comme ça. Et même le morceau d'après, le 9, mais il paraît excellent, quoi. Donc, des Seeds de Sky Saxon, ceux qui font Pushing Too Hard. Et ça, c'est le numéro 8 qui est caché, en fait. C'est pour ça que je l'appelle I Swear It's True, mais. Tu vois, il n'y a que 7 en face A, c'est écrit, et 5 en face B, donc il n'y a que 12 morceaux, et en fait, il y en a 13. Donc, je me dis que c'est le 8, parce que celui-là, le titre, je le retrouve nulle part. Mais je connais pas le titre, mais bon, bref. Bref, revenons à la culpabilité de créer en vue de ramasser des dollars. Selon le premier amendement, tu as le droit. Aux USA, c'est protégé. Donc, je vous jure que je vous aime. Si vous me payez, mais je veux des sous. Hein, mais je vous jure que je vous aime. Je vous jure que c'est vrai. I swear it's true. C'est vrai, je vous aime. Vous allez y arriver, mais donnez-moi de l'argent. Tu vois, c'est comme ça. Il me faut du fric. Tu vas y arriver, mais il me faut du fric. Bon, en France, je pense que ça ne marcherait pas. Mais bon, pourquoi pas. Il y en a qui ont essayé déjà. Hein. Mais bon, revenons à Donald Trump. Alors lui, il dirait peut-être, bon, peut-être que c'est ce qu'il a dit, je vous jure que je vous aime, vous, conservateurs, si vous me donnez du pouvoir. Bon, là, ça se tient. Je vais vous donner ce que vous voulez. Ça se tient aussi. Et vous verrez que ça ne marchera pas. Ça, c'est moins sûr. On ne sait pas. Peut-être qu'il va le voir à un moment. Mais je vous jure que je peux faire n'importe quoi et que je peux vous dire n'importe quoi. Je suis politicien. Donc là, il y a... Normalement, je pense que... Parce que nous, sans les États-Unis, je pense que le monde entier... On est possiblement en banqueroute. Mais même... Mais eux, c'est pareil, quoi. C'est ça, parce que s'ils ferment tout... Bah voilà, mais c'est vraiment la digne dictature au premier jour, comme il disait, quoi. On va tous morfler, quoi. Donc, je pense que si, là, ça va vraiment baisser, le pouvoir d'achat des Américains va baisser. Donc, là, il va se dire, bah non, c'est pas possible. Les mecs, ils votent pour moi, je leur dis, vous allez avoir la belle vie, puis en fait, non, c'est pire qu'avant. Voilà. Moi, je pense que... Disons que c'est possible que quelque chose comme ça arrive. Donc, aujourd'hui, on est, comme je vous disais, le 3 février 2025. Cette émission va être diffusée en mars 2025. J'espère que d'ici là, on verra ce qui s'est passé.
Salut, c'est Jeanine. Il y a Helmut Schwartz qui m'a demandé de dire que ces émissions, elles sont le mercredi à 21h30 et que Johnny Tiefbeck, il m'a dit aussi... Que lui, c'est tous les jours, ça s'appelle la barge russe, et ça porte sur l'actualité, il m'a dit, philosophie, et puis, ouais, et c'est à 14h05. Merci. Helmut, ces émissions, c'est musical, et c'est par quinzaine, j'ai oublié de dire, c'est par quinzaine, ouais. C'est alterné avec une autre émission.